Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 23. À Naples, politique anti-système.
Full Continental. Caroline Gillet. Sur France Inter et la RTBF.
C'est dimanche matin à Naples. Une dame s'est installée devant l'église, mais personne n'est là encore pour donner des pièces. Il y a ce conflit entre pavé et roulette de la valise, drame du touriste qui cherche à être discret. Alors je la porte jusqu'à la gare, c'est 20 minutes à pied. Tout est fermé encore, sauf les boulangeries, qui se ressemblent et c'est joyeux parce que le café est délicieux et les gâteaux fourrés sont coquins. Il y a aussi les oiseaux, je ne sais pas si vous entendez. La mer n'est pas loin, mais je n'ai pas eu le temps d'aller la voir. Je viens de passer 24 heures à Naples et j'ai rencontré trois jeunes, de moins de 30 ans, qui ont fait le choix en mars dernier de partis anti-système, comme on dit. Deux d'entre eux sont élus, l'un au mouvement 5 étoiles et un autre à la Ligue, anciennement Ligue du Nord. Dans cet épisode de Full Continental, une émission sur la jeunesse européenne, j'aimerais tenter de comprendre comment et pourquoi ils veulent faire de la politique autrement. On va revenir sur tout ça, mais d'abord, cette journée à Naples, elle a commencé avec une manif, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, devant le bureau du maire.
Tutta la città, tutti i quartieri sono presenti oggi.
La manifestation s'arrête sur la Plaza Municipio. Au milieu de cette place, il y a une fontaine et autour, une structure sur laquelle on peut s'asseoir. C'est ici, sans se concerter, qu'ils m'ont tous donné rendez-vous.
Maire absent. Parce qu'en fait, il a comme dire, donné une priorité plus haute aux parties de la vie plus touristique.
Celui qu'on entend, celui qui traduit, c'est Simone. Simone a 27 ans, il est technicien informatique. Il porte un pull bleu et blanc très soigné, des lunettes de soleil. Et sur son poignet, il y a un bracelet offert par sa mère avec une citation de Mark Twain qui dit que dans la vie, il ne faut jamais cesser d'explorer. Simone parle avec pas mal de certitude. Il dit des phrases type « Victor Hugo est le meilleur humain du monde, Naples la plus belle ville et ses pizzas les meilleures de l'univers ». Au début, je le trouvais un peu « too much ». Et puis quand, pour me prouver, pour cette histoire de pizza, il m'a emmené chez Solo Pizza, j'ai fini par le trouver très attachant. Au début, Simone venait pour m'aider à traduire l'interview du jeune élu de la Ligue, avec qui j'avais rendez-vous peu après. Et puis, en l'attendant, avec Simone, on a parlé, et j'ai allumé mon micro.
T'es d'accord avec les manifestants que la ville est trop tournée vers le tourisme, peut-être ?
Alors, en fait, il y a des choses qui devraient être faites, par exemple, à propos des rues, qui sont un des problèmes de la ville, ou de nettoyage de la même. Mais, en fait, je suis d'accord avec le maire, avec les choses qu'il a fait, parce que, depuis quelques ans, la ville est devenue plus célèbre dans l'univers du tourisme.
Naples, peut-être, depuis quelques années, est plus célèbre. Mais la ville a beaucoup souffert de la crise et les écarts se creusent avec le nord du pays. En février, juste avant les dernières élections, un journaliste de Libération rassemblait des chiffres dans son enquête. Il écrivait « Dans le Mezzogiorno, où se trouve Naples, le chômage touche environ 20% de la population active et près d'un jeune sur deux. » Dans les cinq dernières années, environ 200 000 diplômés de l'université ont émigré. 4 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. Quant à l'espérance de vie d'un Napolitain, elle est de 4 ans inférieure à celle d'un Florentin au nord du pays.
Mon père avait un magasin de pièces de voiture. Voilà, il a fermé. Il a ouvert un autre magasin et même destin.
La famille de Simone avait été durement touchée par les conséquences de cette crise de 2008.
Mais en fait, c'est triste de voir un homme de 50 ans qui a travaillé pour 30 ans de sa vie de manière honnête, etc. Se réveiller le matin et sans savoir comment il doit faire pour gagner la journée. Et c'est triste que l'État n'a offré aucun soutien.
Et comment il faisait alors pour gagner de l'argent ?
Et il vendait des choses à un niveau privé.
Des petits business.
Son expression, quand il rentrait chez nous, c'était quelque chose de triste.
Malgré ça, Simone se dit que son père a été plus privilégié qu'il l'est lui. Même si Simone a fait des études de français et d'arabe à la fac, dans sa famille, il était le tout premier à aller à l'université.
il y a quelques ans, un jeune qui avait un diplôme trouvait un travail très facilement. Nous sommes les moins fortunés. Par exemple, mon père, quand il avait mon âge, il avait déjà un magasin à Perles, les choses marchaient bien, il était déjà marié.
Toi, pour qui est-ce que tu as voté en mars dernier pour les élections législatives ici
pour
en Italie?
Le mouvement 5 étoiles.
Le mouvement 5 étoiles, pour rappel, a été créé il y a 10 ans. Il est qualifié de populiste et anti-système et on ne sait pas le classer. D'ailleurs, il refuse de l'être ni à gauche ni à droite. Le mouvement a obtenu 32% des votes aux dernières élections en mars 2018, surtout dans le sud du pays. Pour arriver au gouvernement, les 5 étoiles ont dû faire alliance avec la Ligue, anciennement Ligue du Nord, parti d'extrême droite, qui avait obtenu 17%. Depuis lors, avec cette coalition, les 5 étoiles ont dû revenir sur beaucoup de promesses, comme leur mesure phare, le revenu de citoyenneté ou revenu de dignité, voulu comme une première étape vers le revenu universel. Il a dû être amplement raboté et remplacé par une allocation modulable qui doit être associée à une recherche d'emploi. C'est un peu comme un RSA, soumis à de nombreuses conditions. Mais ce que dit Simone, c'est que c'est déjà ça.
La pauvreté, les gens qui ont des difficultés objectives dans la vie quotidienne, les systèmes sociaux, de welfare, etc. Ce sont des thèmes que le Parti démocratique...
Le parti de gauche traditionnel.
Oui, en fait, de centre-gauche n'a jamais traité. Le Parti démocratique, en fait, a proposé un référendum contre le salaire de dignité. C'est un paradoxe. Pourquoi ? Parce que si le Parti démocratique est un parti de gauche, cette procédure est une procédure de gauche hein, à faveur des gens en difficulté, etc., il devrait dire « Ok, voilà la raison pour laquelle les gens ici en Italie ont perdu la mort pour la politique, qui en fait, c'est une valeur, c'est quelque chose de très haut pour l'humanité. » Et le mouvement 5 étoiles représente maintenant quelque chose de nouveau, quelque chose jamais passé avant et qui en fait fait des choses que la gauche italienne n'a jamais fait et n'a jamais pensé de faire.
Qu'est-ce que tu as pensé le jour où tu as appris que du coup il y avait cette alliance avec l'extrême droite? Tu t'y attendais?
Tout le monde a eux un coup. Tout le monde a pensé, comment ça, c'est possible ça? Ils ont toujours dit des choses complètement opposées. Mais en fait, ils ont fait un contrat. La Ligue voulait fermer l'accueillance, voulait faire des batailles contre le phénomène de la migration. Le mouvement 5 étoiles voulait faire le salaire de dignité, qui était le point le plus important de leur programme électoral. Ils se sont dit, ok, je vote ça. Et ils ont fait cette alliance-là.
Une autre particularité du mouvement 5 étoiles, c'est qu'il a mis au pouvoir ou à des postes de responsabilité des personnes qui n'avaient aucune expérience en politique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut te tenter, toi aussi?
À mon avis, dans ce moment historique, il faut parier. Il faut parier sur des gens qui, c'est vrai, n'ont pas beaucoup d'expérience, mais peut-être qu'ils ont du talent. Alors, on connaît déjà qui sont les autres. Que dans les années passées, on a eu des grands professeurs, des grands techniciens qui en fait n'ont pas porté des grands résultats. Et Renzi a eu ses opportunités, Berlusconi a eu ses opportunités.
Et on parle aussi, il y a eu beaucoup de gaffes et d'erreurs de la part de ces jeunes responsables qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont fait le buzz, où ils se sont trompés, où ils ont dérapé.
Est-ce que tu rappelles les vidéos de Berlusconi qui fait ses coucous à la Merkel? Alors, je peux pardonner un verbe pas bien utilisé. Ça fait rien, ça peut passer à tout le monde. Mais quelqu'un qui fait les lois à son avantage pour ne pas aller en galère, je ne peux pas pardonner ça.
On entendra justement tout à l'heure un jeune élu du mouvement 5 étoiles. Mais d'abord, je repense à David, qui a quelques années de moins que Simone et qui a été un des plus jeunes élus du pays. Mais lui soutient le parti traditionnel que fustige Simone. Il était élu au Partido Democratico de centre-gauche, auquel appartient Matteo Renzi, et qui était au pouvoir jusqu'en mars dernier. Le parti a été massivement rejeté aux dernières élections. David aujourd'hui a 22 ans, mais il parle comme quelqu'un de plus âgé. Il est passionné de politique et d'histoire. Quand on s'était rencontrés, il était remonté à son grand-père pour expliquer ses choix à lui. Simone et les deux jeunes élus que j'ai rencontrés à Naples avaient moins ce réflexe, peut-être parce que lui, David, a un père italien, une mère française, alors il a plus réfléchi à ses origines. Peut-être aussi parce qu'il sait que les vieilles histoires italiennes intéressent les filles comme moi. Et ça, il le sait parce que depuis 3 ans, il vit à Paris pour ses études. Alors attention, je vous propose de m'accompagner dans un petit flashback. On va parler de la droite, de la gauche, du nord, du sud. Ça va aussi permettre de comprendre les années Berlusconi et leurs conséquences. David vient du nord du pays, de San Martino. Je lui demande c'est comment. Il me dit, c'est tout au fond de l'Adriatique, il y a la mer, des plaines et des montagnes. J'ai décidé de ne pas aller voir d'images parce que ça ne peut pas être plus beau que dans ma tête.
Dans un milieu rural comme celui-là, c'est un endroit très de droite car ce sont des gens qui ont des terres, qui produisent de la richesse. Il y a un peu une tendance à faire un peu du black, faire travailler des gens sans vraiment les déclarer, etc. D'ailleurs, énormément de cette main-d'œuvre aujourd'hui, c'est des Noirs de l'Afrique subsaharienne qui sont arrivés dans les années récentes certainement pas en avion. Quasiment uniquement des clandestins qui peuvent payer sans trop de problèmes 2-3 euros de l'heure. Bah, en fait, la droite qui en Italie, il faut dire, c'est une droite berlusconienne. Donc c'est quelque chose qui se base énormément sur faire payer le moins d'impôts possible aux gens à travers des lois qui effaçaient les dettes fiscales envers l'État. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on avait fait de la fraude fiscale pendant 10-15 ans, on était quasiment certain qu'il y avait Berlusconi qui, à la prochaine élection, allait promettre d'effacer toutes les dettes des Italiens. J'ai un souvenir extrêmement limpide des élections de 2006, c'était des législatives, moi j'avais 10 ans, Berlusconi était au pouvoir globalement depuis 94, donc avant ma naissance, et c'était un moment où voilà, il y avait une forte personnalité de gauche qui était en train d'émerger, qui était Romano Prodi, qui a été commissaire européen, je crois, enfin voilà, donc encore une fois une figure institutionnelle extrêmement forte, d'une vraie gauche sociale et européiste qui était en train de se configurer. Et en fait, je me souviens pendant ces 2-3 années où moi j'étais en primaire, donc c'est un moment où on n'a pas une vraie sensibilité politique, mais je me souviens qu'il y avait quand même une certaine violence presque entre les enfants, et je me souviens que sur une classe de 25 élèves, on était 4 à être pour Romano Prodi, qui était donc le candidat non berlusconien qui était susceptible de l'emporter. On ne percevait pas l'importance de cette élection, mais on voyait que ça inquiétait nos parents.
Et tu dirais que c'est là que ta conscience politique est née ?
Oui, absolument. C'est vraiment sur ces années-là. Je pense que je me suis vraiment construit sur l'anti-berlusconisme, c'est-à-dire cette manière de faire de la politique en donnant des cadeaux aux gens. Parce que je considère que quelqu'un qui doit mettre en œuvre une justice sociale, bah, s'il n'a pas été juste à un moment de sa vie pour ses propres intérêts, c'est pas quelqu'un qui est apte à gouverner le pays. J'ai un ami français qui définit l'Italie comme un pays où la politique, en fait, c'est juste un grand jeu, quoi. Que ce qui est sérieux en Italie, c'est le foot, et ce qui est ludique, c'est la politique. Donc effectivement, on avait presque l'impression que c'était une suite d'épisodes comme ça. Bon, des épisodes particulièrement dramatiques au moment où on a failli arriver à la banqueroute en 2011 avec Mario Monti.
Un petit mot pour vous rappeler que Mario Monti a été président du Conseil de 2014 à 2016, qu'il avait été en charge d'imposer à la société italienne le programme d'austérité de l'Union européenne, dont les effets cruels, surtout pour les jeunes, avaient terni l'image que se faisaient les Italiens de l'Europe.
Et d'ailleurs, avec Mario Monti, je pense qu'aussi il y a eu une autre phase vraiment de mon engagement, le moment où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des gens en Italie qui jouaient sur les peurs des gens. C'est-à-dire, il y avait Mario Monti qui faisait un peu le sale boulot que personne n'avait envie de faire. Il y avait un pays qui risquait la banqueroute, donc 60 millions de citoyens qui risquaient du coup de ne pas être payés par l'État du jour au lendemain, de voir leurs économies disparaître par des politiques économiques qui étaient imprudentes de la part du gouvernement précédent de Berlusconi, justement. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un peu du côté peut-être plus rationnel de la politique, pas celle forcément qui fait des cadeaux, qui plaît, qui est belle comme ça à voir. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais vraiment du côté de Mario Monti, où je me suis dit, bah non, il y a quelqu'un là qui n'a pas de charisme, il ne sait pas parler aux Italiens, il n'a pas une grosse villa, mais bah, il est en train de remettre les comptes de l'Italie sur la bonne route et de nous éviter de devenir la Grèce bis.
À 16 ans, David fait donc le choix de s'encarter avec le Partido Democratico de centre-gauche. Parmi les raisons de son engagement, il remonte à son grand-père, qui était communiste à l'époque de Mussolini.
Il a subi ce que avait fait Mussolini, c'est-à-dire d'envoyer des jeunes Italiens dans des mines, en l'occurrence c'était en Belgique, et donc lui il avait fait de la prison pour avoir voulu s'échapper des mines au moment où son meilleur ami était mort dans ces mines, et il a décidé d'arrêter de travailler, c'est là le moment où il a fait la première fois de la prison, pour des raisons politiques. Voilà.
Alors qu'il a 17 ans, un soir, le candidat maire de son village appelle David et lui propose de participer aux prochaines élections municipales.
Lui demande quelques jours pour y réfléchir car bon bah j'avais mon bac à passer, j'avais l'impression que c'était un truc immense, voilà.
Et finalement David a décidé de dire oui.
J'ai vraiment eu l'impression du coup de me mettre un peu au service et donc j'avais pas vraiment fait une grosse campagne électorale et j'avais eu beaucoup plus de voix de ce à quoi moi je m'attendais. Donc c'était assez flatteur de se dire bah il y a 30 personnes qui se disaient bah pourquoi pas lui pour me représenter.
David a été élu à 18 ans et 2-3 mois. Et ce qu'il raconte là résonne beaucoup avec ce que m'a dit le jeune élu 5 étoiles rencontré à Naples, que vous allez bientôt entendre. Lui aussi était un des plus jeunes élus du pays. David a fait 3 ans et demi de mandat avant de venir étudier en France. Je lui demande ce qu'il pense du système de démocratie directe qui est proposé par le mouvement 5 étoiles. Est-ce que ce système lui semble intéressant ?
Alors non. À mon avis, c'est pas convaincant. Pardon pour la réponse sèche. Donc, ils disent, bah, nous, sur notre site, avec nos militants, on leur fait décider si un tel peut être candidat ou pas. Donc, ils font des sortes de primaires en ligne pour les candidats à la députation, ce qui, d'ailleurs, donne comme résultat des personnes qui sont élues avec 16 votes sur Internet. Donc, à un clic, il suffit qu'il ait fait voter sa grand-mère, ses 10 tantes et ses frères et sœurs pour être candidat à la députation. Voilà, moi je pense que c'est normal qu'il y ait un apparat du parti politique qui dit, bah, un tel a fait ses preuves, il a été militant depuis très longtemps, il est convaincu, c'est quelqu'un qui a du charisme. Il y a évidemment des considérations qui doivent être faites par quelqu'un qui sait comment on fait de la politique, de ne pas mettre n'importe qui. Aujourd'hui, bah, le résultat c'est que les députés du mouvement 5 étoiles sont très peu diplômés, enfin, ce qui à mon avis n'est pas vraiment un handicap, le fait de ne pas avoir un diplôme, mais le résultat en l'occurrence pour ces personnes-là, c'est de, bah, du coup, c'est des gens qui croient à des théories du complot. Donc cette idée-là de démocratie directe, elle parle énormément aux jeunes, qui ont l'impression de ne pas être écoutés. Et c'est peut-être ça le problème. Et c'est là où doit intervenir vraiment la politique, c'est d'envisager une meilleure représentation des jeunes, ou enfin, en tout cas de ces personnes-là, à travers la politique. Donc, c'est-à-dire de dire, bah, regardez, moi, Parti Socialiste, moi, les Républicains ou Parti Démocrate, etc., je fais des politiques pour les jeunes. Je fais des politiques, par exemple, pour le logement, parce que c'est difficile pour des jeunes aujourd'hui de se loger. Et là, on verrait qu'il y aurait moins cette désillusion envers la politique et du coup, moins la redirection vers des extrêmes.
Depuis mars dernier, le village de David a basculé à l'extrême droite.
J'ai des amis qui ont voté donc Oui League, j'ai des amis qui ont voté 5 étoiles et j'ai des amis qui ont voté les autonomistes. Oui, il y a des gens oui que je connais bien et dont je me suis pas forcément distancé et je suis confiant que c'est quelque chose de passager, c'est-à-dire que bah ils ont 20 ans, ils ne voient pas un bon futur pour leur pays et ils traduisent ça dans un vote qui est violent. Et je suis confiant que bah, dans quelques années, ils auront peut-être repris des études ou bien qu'ils auront trouvé un travail qui les satisfait. Et donc je pense que la stabilité est une clé, que ce soit professionnelle, là où l'État peut vraiment intervenir, ou sentimentale, peut-être quelque chose justement de plus stable. Je crois que là, il y a quelque chose, il y a un vrai débat qui est possible.
On va donc retrouver Stefano, un jeune élu 5 étoiles, après le disque. Djoubaka, notre super programmateur musical, en entendant le sujet du jour, a dit qu'il voulait de la douceur et un peu de beauté. Alors voilà, il a choisi Blik Bassi. Geni yesri yibe yo Basori nigil nibe yo Lo yes biwele ni kere wongi Onge ba biwele ni munu wongi
Lo yes iho Inyonyo ninyo Lo yes iho
yes, me nenge likere wongi. Papire din chomo ki kipi tumbimo. Inge mwe mwa kipi perne ni munu wongi. Inyo baby well ni bezgi wongi. Hatang onge mle long. Inge ni yo kiki wo. Mumye abi well ni bezgi wongi. Spana din kirne ni kere wongi. Elong yesi ho. Inyonyon inyon.
Vous qui nous écoutez en France sur France Inter, en Belgique sur la RTBF La Première ou tout ailleurs grâce à la balado-diffusion, je vous salue et par l'oreille je vous emmène dans le sud de l'Italie. On a entendu David Basso, qui était un des plus jeunes élus locaux italiens il y a 3 ans. Il militait pour le parti alors au pouvoir, le Partido Democratico de centre-gauche, parti traditionnel. Stefano Capizzi, comme David, est aussi un tout jeune élu, il a 24 ans, et lui ça fait 2 ans qu'il est au conseil municipal, mais pour un parti qu'il appelle anti-système, pour le mouvement 5 étoiles. Stefano n'est pas très grand, il a une petite barbe, il a l'air timide, il a l'air de s'excuser un peu d'être là. Pourtant sa famille est de Naples, de Fureglota, depuis la nuit des temps. Son père est gardien de sécurité dans les banques, les stations de métro. Sa mère est secrétaire à mi-temps. Ils n'étaient pas impliqués en politique, mais on parlait beaucoup à la maison. Ils étaient dégoûtés par les vieux partis, mais ils lui répétaient, à lui, leur fils Stefano, que la politique restait la seule façon de changer les choses. Alors Stefano a fait droit à la fac, et en 2012, quand il avait 17 ans, il a rejoint Meetup. Ces groupes de parole de citoyens sortent d'antichambre du mouvement 5 étoiles.
Traditional parties could not be the right tool to fix the problems.
Stefano dit qu'il a adoré découvrir ça parce que les vieux partis ne semblaient pas parvenir à régler les problèmes de pauvreté, de transport, d'environnement et de chômage.
Because there is no work. And I wanted to do my part.
Je voulais moi aussi jouer un rôle, dit Stefano. Ses parents sont fiers et l'encouragent. Il raconte qu'au premier meeting auquel il a assisté, il était question du volcan Campi Flegrei. Un volcan près de son quartier, pas très connu, dit-il, mais plus dangereux que le Vésuve. Des scientifiques auraient mis en garde les autorités de la ville qui n'auraient pas prévu de plan d'évacuation en cas d'éruption.
Est-ce que tu avais peur en grandissant de ce volcan ?
Ce soir-là, ils ont réfléchi à des idées pour pousser le maire à prendre action et mettre en place un vrai programme, ce qui avait rassuré Stefano. Il dit qu'il a aimé ces rendez-vous informels qui rassemblaient des gens de tous les âges. Pour essayer de comprendre ce qu'est le mouvement 5 étoiles, voilà un résumé dans Libération. Fondé en 2009, ce mouvement est le fruit du comique politique italien Beppe Grillo et du plus discret entrepreneur du web Gianroberto Casaleggio. Le mouvement bénéficie de l'aura de celui qu'on présente souvent comme le Coluche italien et qui, au cours de sa carrière d'humoriste, a souvent critiqué le système politique et économique. Cette dénonciation de la classe politique et de la finance corrompue fait partie de l'image contestataire, voire populiste du mouvement, que Beppe Grillo traduit en acte en organisant des journées Vaffanculo, où il invite les puissants à aller se faire voir. En plus de la critique du système politique et financier, le mouvement 5 étoiles défend une écologie radicale que l'on retrouve dans les 5 étoiles de son nom pour 5 points clés à défendre: l'eau publique, le transport durable, le développement durable, le droit à l'accès à Internet et l'écologie. Stefano explique que le mouvement 5 étoiles est sur Internet uniquement, que ceux qui y sont inscrits peuvent se présenter aux élections et qu'il est heureux parce que maintenant il y a des 5 étoiles jusque dans le Parlement européen. Ça permet d'agir à tous les niveaux. En 2016, Stefano a donc participé à la création d'une liste locale avec une trentaine de personnes et ils ont été 2 à être élus, parmi lesquels lui et un autre militant de 71 ans. Je lui demande quelles conditions il faut remplir pour s'inscrire sur la plateforme. Il répond qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge et n'avoir jamais été élu. Le mouvement 5 étoiles rejette la démocratie représentative au profit de la démocratie directe, avec ce slogan « Un clic vaut un vote ». Ceux qui critiquent cette façon de faire estiment, comme l'auteur Jacopo Iacoboni, que le mouvement 5 étoiles est contrôlé par une entreprise, Casaleggio Associati, qui fournit des solutions technologiques, pour la plupart fantasmées, au désarroi politique contemporain dans le but d'arriver à produire une désintermédiation des décisions politiques. le génie entrepreneurial des Casaleggio consisterait dans le fait de vendre aux masses le rêve d'une solution digitale à la crise actuelle de la représentation politique. Je mettrai le lien d'un article sur le sujet sur le site de l'émission pour ceux qui veulent aller plus loin.
Politics is an experience that everyone should try in his life.
Lui avait 21 ans quand il arrive au conseil municipal. Il dit qu'il était alors très surpris, mais que chacun, une fois dans sa vie, devrait faire de la politique pour rendre un service à la communauté avec ses talents propres. Selon les règles du parti, il sait qu'il ne pourra pas se présenter au-delà de deux mandats.
Le leader est le groupe. And more than the group is the program, the ideas that you bring in politics.
Il dit aussi qu'il n'y a pas de leader dans le mouvement 5 étoiles. Le leader, c'est le groupe, et encore plus, le programme. Il dit on nous accuse de donner des responsabilités à des gens incapables. Mais dans tous les partis, on donne des responsabilités à des héritiers, des fils et des filles de politiques, ou bien encore à des criminels. Je lui demande ce qu'il pense du qualificatif populiste qu'on attache au mouvement. Il me répond que si ça veut dire appartenir au peuple et le servir, ce n'est pas un problème. Le populisme, c'est mal, dit-il, mais si on promet des choses qu'on ne tient pas, ce que nous ne faisons pas. Pourtant, le mouvement a été critiqué pour sa gestion du dossier du revenu citoyen, qui est au final très loin de ce qui avait été promis. C'est parce qu'en face, la Ligue, ils nous ont poussé à ça, répond Stefano. Je lui demande ce qu'il a ressenti quand il a appris que le mouvement 5 étoiles s'alliait avec la Ligue suite aux élections en mars dernier pour pouvoir former un gouvernement. Il me répond, je vais être honnête, la Ligue c'est très loin de nous, surtout ici dans le Sud, puisque le nom complet de leur parti c'était Ligue du Nord. Ils voulaient couper le pays en deux. Mais si le compromis entre nos deux partis peut apporter des résultats, alors c'est bien.
Mais ça permet aussi du coup à la Ligue d'être au pouvoir et de mener sa politique.
La Ligue attire les jeunes parce qu'elle s'adresse aux estomacs, dit Stefano. Mais ça crée la peur des immigrés et des gens différents. La Ligue veut fermer le pays, mais comme c'était leur point le plus important dans leur programme, nous, les 5 étoiles, on a dû plier. Mais il n'y aura pas de violation des droits de l'homme sous notre mandat. J'espère qu'à l'avenir, on pourra diriger le pays seul. Et s'ils vont trop loin, on cassera l'alliance, dit Stefano. Je lui demande quelle serait la limite à ne pas dépasser. Il dit l'égalité. S'il y a des lois qui font des différences, on ne peut pas l'accepter.
Okay, allora, Biagio Seguino, age,
la Ligue.
29,
j'avais pris rendez-vous cet après-midi-là avec un jeune élu de ce parti d'extrême droite. Le jeune élu, c'est Biagio Seguino. Il a 29 ans, il est coordinateur provincial et responsable régional de la région Campanie. Quand il ne s'occupe pas de politique, il est comptable et auditeur.
Et candidat aux élections européennes.
I don't know.
Je ne sais pas. Il se pourrait que je me présente dans les autres provinces pour les élections européennes parce que c'est un mandat qui donne plus de place et plus de visibilité pour te projeter en Europe.
Biagio s'assied donc sur la place, près de la fontaine, avec moi. Et entre chaque réponse, il consulte ses messages sur son téléphone. Son assistant reste debout, à côté, impassible. Je lui demande quand et comment est né son désir de politique.
Alors j'ai choisi de faire de la politique parce que je voulais montrer que ma génération n'est pas juste la génération des Bamboccioni, des Tanguy, comme l'ont dit certains ministres de gauche dans le passé. Mais au contraire, on peut, à l'intérieur des institutions, donner notre contribution pour améliorer le territoire et les conditions de vie des habitants.
Il livello di degrado e di corruzione.
Il y a eu un tel niveau de détérioration et de corruption des administrations publiques en Campanie et dans la zone nord de Naples, le chômage élevé, et puis le fait de voir que quand même, avec la Lega, alors au début c'était la Lega Nord, et puis la Lega Nationale, au contraire au nord, le taux de chômage des jeunes était plus bas, on vivait mieux. Il y avait beaucoup de jeunes dans l'administration publique, donc j'ai choisi de m'engager justement, poussé par les modèles de succès des autres régions italiennes, où quand même, il y a une meilleure gestion et la politique menée donne de meilleures conditions de vie.
Il faut rappeler peut-être que la Ligue n'est pas un mouvement nouveau. C'est l'allié historique de Berlusconi depuis 1994. Et en fait, je ne savais pas, mais le parti est né en 1991, ce qui en fait le plus vieux au Parlement aujourd'hui.
Vous parliez tout à l'heure du fait que, effectivement, la Ligue du Nord, à la base, ce parti était plutôt un parti du Nord, que quelqu'un comme Salvini a été souvent filmé en train de critiquer, par exemple, la région de Naples ou de critiquer le sud du pays. Il y a une vidéo en 2009 qui le montre en train de chanter des chants anti-napolitains. Comment est-ce qu'on accepte le rapprochement, tout d'un coup, de ce parti vers le sud, alors même qu'il a été si critique ?
La
Lega, sous l'impulsion de Matteo Salvini comme nouveau secrétaire fédéral, est devenue la Lega pour Salvini, Premier ministre. Avec une ligne nationaliste, elle a basculé et mis d'accord tous les Italiens pour s'opposer aux politiques de l'Union européenne néfastes pour l'Italie et toutes les régions italiennes. Donc elle naît vraiment de cette union de tous les Italiens et de toutes les régions italiennes pour faire front commun contre l'Europe, redécouvrir les valeurs de notre identité, de la patrie et surtout défendre nos frontières contre l'immigration sauvage et incontrôlée des dernières années.
En ce moment, la Ligue propose une loi qui imposerait une amende à ceux qui n'auraient pas de crucifix dans leurs écoles.
Au moment où on a accueilli jusqu'à ces dernières années tant d'immigrés qui ont le droit de professer leur religion et voulaient même imposer d'enlever les crucifix des écoles, imposer ce qu'il fallait manger dans les cantines, c'est évident qu'il y avait des abus dans cette volonté de contrôler nos habitudes que nous, à la Lega, et en tant qu'Italiens, on ne pouvait pas accepter. Donc avec les nouvelles mesures de lutte contre l'immigration clandestine et les nouvelles mesures pour conserver les crucifix dans les écoles, nous redécouvrons notre identité, nos valeurs et nous réaffirmons la fierté d'être italiens.
Voilà quelques chiffres sur le phénomène migratoire. En 2017, l'Italie a supporté 85% des flux migratoires en mer Méditerranée. Et le pays est devenu, de loin, le principal point d'arrivée des migrants. L'UE, depuis le début de la crise, ne parvient pas à prendre les mesures adéquates pour faire face. Alors certes, des bateaux libyens, notamment, doivent empêcher les départs des migrants depuis les côtes libyennes, mais beaucoup d'enquêtes dénoncent leur méthode. Entre 2016 et 2017, il y a 30% de migrants en moins qui ont débarqué en Italie. Et puis ensuite, 80% de moins l'année suivante. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir le lien entre le fantasme et la réalité. Les Italiens estiment que les immigrés représentent 30% de la population de leur pays. Ils ne sont en réalité que 7%. Matteo Salvini, le dirigeant de la Ligue, parle d'invasion de hordes de migrants. Il avait promis lors de sa campagne de rapatrier 100 000 immigrés dans leur pays d'origine. Une fois au gouvernement, il a dû admettre qu'il n'y arriverait pas. Mais en novembre, le décret Salvini durcit le droit au permis de séjour humanitaire et introduit de nouvelles normes pour l'obtention de la citoyenneté. Une de ses mesures phares abolit les permis de séjour humanitaire aux personnes vulnérables, familles ou femmes seules avec enfants.
Pourquoi est-ce que c'est important d'aller à ce niveau-là ?
C'est très important d'abord d'obtenir beaucoup d'élus en Italie, mais aussi d'avoir une majorité pour trouver des accords avec les autres pays de l'Union européenne afin de subvertir l'ordre actuel des choses au Parlement européen. Et selon toute probabilité, on va y arriver. Il est clair, à mon sens, que l'Union européenne doit donner des indications aux États membres, mais dans le respect de la souveraineté de chacun.
Dernière question, qu'est-ce qui se passe entre la France et l'Italie là en ce moment ? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? C'est très tendu.
Moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, même après les élections européennes, parce que quand même, je pense que Salvini en Italie, comme Le Pen en France, vont prendre beaucoup de voix, et donc ça va changer le sort de l'Europe. Ce sera aux Français de choisir très vite de quel côté ils sont, entre Macron et Le Pen.
Biagio avait peu de temps, alors il repart et nous laisse avec son assistant qui veut nous emmener boire un café avant de repartir. Je dis « nous » parce que Simone est là, c'est lui qu'on entendait au début de l'émission et c'est lui qui a aidé pour la traduction. Simone et l'assistant de la Ligue ont parlé entre eux au comptoir, moi j'ai bu mon café d'une traite. Et quand on s'est quitté, Simone m'a proposé une pizza.
Si tu n'as jamais mangé la pizza à Naples, tu n'as jamais mangé la pizza en général.
En chemin, je lui demande ce qu'ils se sont dit. Notre seul point commun, dit Stefano, qui lui adhère au mouvement 5 étoiles, c'est notre haine des partis traditionnels.
Je ne partage pas ses idées. Parler avec quelqu'un qui n'a pas tes idées est toujours bon. Se confronter. Se confronter est fondamental. C'est à la base de la démocratie. J'ai vraiment une terrible idée de Matteo Salvini. Il est un grand communicateur, mais en fait, je ne crois pas qu'il sera capable d'avoir des idées en fait, qui sont en mesure d'améliorer l'Italie. Pas du tout. Mais il fait des choses qui vont en fait contre les lois européennes. L'Italie a été un pays de migrants. On peut trouver des Italiens
partout, en France, en Grèce, dans le sud de l'Amérique, au Canada, dans les États-Unis, partout. Donc il faudrait avoir un peu de mémoire.
Je parlais tout à l'heure du décret de Salvini concernant les migrants. Les maires de gauche de trois grandes villes italiennes, dont celle de Naples où on se trouve, s'y sont opposés et ont suspendu son application. Il ne s'agit pas de désobéissance civile, mais de la simple application des droits constitutionnels à tous ceux qui vivent dans notre pays, a déclaré le maire de Palerme. En 6 mois de pouvoir en Italie, la Ligue de Matteo Salvini a obtenu un quasi-blocage des arrivées de migrants, mais des experts redoutent que ces mesures augmentent le nombre et la marginalisation des clandestins et en conséquence fassent croître l'insécurité dans la péninsule.
Alors c'est quoi là? C'est Salopizza.
Salopizza.
Simone est assez content que je lui délègue le choix des pizzas.
Je te conseille la Margherita. C'est la plus célèbre et la meilleure.
Il faut dire qu'il a très bien fait ça.
Il y a quelques jours, à Naples, devant une des pizzeries les plus importantes de la ville, les plus célèbres, Sorbillo, elle s'appelle, quelqu'un a mis une bombe qui a détruit une partie de la pizzerie. La pizzerie se trouve dans la partie centrale de la ville, via Tribunal, une ville merveilleuse, ancienne, mais malheureusement... contrôlé par la Camorra, et on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être qu'on ne le saurait jamais. Voilà la vraie puissance de la mafia. La mafia, tu ne la vois pas. Mais en fait, dans les dernières années, l'Andrangheta, qui est la mafia qui fait référence à la Calabria, qui est la région au sud de la Campagne, où se trouve Naples, est l'association criminelle la plus puissante d'Europe et elle facture 60 milliards d'euros par année. Elle contrôle la cocaïne dans l'Europe entière. Donc, ce que je voudrais dire à notre cher ministre est: oui, les migrants sont un problème entre relatif. Le problème, c'est ça. Parce que les 60 milliards d'euros pourraient être plus utiles que quelques migrants irréguliers à moins. Ça, c'est mon pensée.
Un article du journal Les Échos de 2017 dit ceci. La 'Ndrangheta calabraise, mafia la plus puissante du monde, a fait en 2013 un chiffre d'affaires estimé à 53 milliards d'euros. C'est 3,5% du PIB italien, soit plus de ceux de McDonald's et de la Deutsche Bank réunis. On arrive au bout de nos pizzas. Simone parle de ses amours, de cette Suédoise avec laquelle il était en couple pendant son Erasmus, et aujourd'hui, de sa copine qui vient d'un village près de Naples. Il dit qu'il est heureux que son père a retrouvé du travail. Et il répète aussi souvent cette phrase « L'Italie, c'est bizarre ». Je monte dans un train pour Bologne. Pour le prochain épisode, j'ai rencontré une jeune Italienne d'origine tunisienne qui rêve elle aussi de politique en révisant pour ses examens. Le jour où elle a voulu se présenter aux élections, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas la citoyenneté. Depuis, elle ne sort jamais sans un exemplaire de la Constitution dans son sac à main. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à Benjamin Riquet à la réalisation, à Martine Messonnier au montage, à Anaïs Delmas qui nous a aidés à trouver tous les francophones de Naples. Merci à Claire Brault qui illustre cette émission. Ses dessins ainsi que les liens dont on a parlé dans l'émission sont sur le site de Full Continental, sur France Inter et sur la RTBF La Première, ainsi que sur notre page Facebook et sur Instagram et Twitter. Belle semaine à tous et à dimanche prochain.